Chère Moll, troisième partie, chapitre 5. L'averse s'épanchait à grand bruit, striait le noir, effaçait les angles des maisons basses, où de maigres lueurs s'irradiaient derrière des rideaux trop diaphanes. Lucie Tirache inspectait la rue Malpar, à peine éclairée par les coups de lumière que dardaient les rares boutiques ouvertes. Seules quelques flaques boueuses miroitaient. Elle s'arrêta, tendant au baiser humide d'un Michet ses lèvres indifférentes. Elle releva son parapluie, tâcha à couvrir le chapeau du monsieur très ivre qui l'enlaçait. Elle scruta l'obscur pour s'assurer si son amant était en vue. Elle réfléchit. Tant pis, il l'ennuyait à la fin avec ses jalousies bêtes. Si on ne pouvait plus rien faire, et puis, pour ce qu'il gagnait, elle ne pouvait pourtant pas aller quêter de l'ouvrage de boutique en boutique. Ah non, par exemple. Une crainte, cependant, la tenait anxieuse. Il lui fallait conduire l'homme raccroché dans la chambre commune, au-dessus du magasin où travaillait Zéphyr, et si on était aperçu, ce serait une jolie scène. Elle restait au bord du trottoir, indécise, très embarrassée. Mais l'apparition brusque de l'amant au seuil de l'épicerie lui donna comme un coup et dissipa son incertitude. Avec une crânerie moqueuse, elle emmena le Michet jusque-là, le poussa dans un étroit couloir, recommandant « Monte, mon chéri, c'est la première porte en haut, la clé est dessus. Il y a une bougie et des allumettes sur la table. Je te rejoins. » Et, dissimulant ses appréhensions sous un air d'autorité câline, elle s'appuya au bras de Zéphyr, sérieusement résolue à imposer sa volonté. « Tu sais, mon petit homme, tu serais bien gentil de ne pas venir ce soir. Non, vrai, il n'y a pas moyen que tu viennes. » Lui se taisait. À sa face, le sang affluait. Il semblait figé par une stupeur. La femme devina quelle colère l'avait saisie. Elle craignit un éclat brusque, et pour le prévenir, dans un flot de paroles dolentes, elle plaida sans fin. « Ne te fâche pas, je t'en prie, faut pas m'en vouloir, tu sais. Je t'aime bien, tu sais, car sans cela, je serais riche à présent. Peux-tu bien croire que je pourrais te lâcher, après avoir fait tout ça pour toi? Crois-tu que je pourrais te faire des queues pour le plaisir, avec des types que j'ai jamais tant vus, et puis laid? Oh, tu ne sais pas quelle tête il a, celui-ci. Mais nous avons des dettes. » Elle les énuméra, nombreuses, très lourdes, et elle reprit. Ah, si nous étions plus riches! C'est là que je les enverrai paître, un bon coup, les Michets. Dis, tu le sais bien, tu ne m'en veux pas, dis. D'un seul trait, sans une pause, Lucie avait précipité les mots, enfilé les phrases. Puis elle s'arrêta, fit un pas en arrière pour feindre un départ. Elle sentait bien la querelle interminée, mais elle voulait marquer à son amant la fermeté de sa résolution. Lui se tenait toujours adossé à la porte, immobile. « Allons, c'est entendu, n'est-ce pas ?» dit Lucie, qui recula, apeurée par ce silence. Alors Zéphyr éclata. « Tu vas rester ici, tu entends ? Ah, il ne faut pas te foutre de moi comme ça. Je sais bien ce qu'il en est, va. Avec ça que je t'ai pas vu entrer l'autre jour avec des hommes chez Merlin, aux Trois Pigeons, dans tous ces garnis, des vrais bordels. » Et sa voix montait. Il criait, levant les poings. Elle fut vexée de se voir découverte, mais, comprenant que ses reproches permettaient une diversion, elle s'attarda à s'excuser avec de faciles mensonges. On l'espionnait, c'était du propre, et on se trompait encore. Aux Trois Pigeons, c'était Louise qui y demeurait avec Angèle, et les hommes, c'étaient leurs amants. « Bien vrai, » conclut-elle, « si on ne peut plus parler à un homme maintenant. » « Oh oui, comme c'est malin. « Si tu crois que je coupe là-dedans, marche toujours, je sais bien ce qu'il en est. Tu veux refaire la noce, voilà tout. Tu en as plein le dos de t'être mise avec moi, voilà tout. Tu veux encore te faire éreinter la carcasse par ces cochons de bourgeois. Et puis, Zéphyr, c'est bon quand il n'y en a pas d'autres. » « Tiens, tu me fais suer !» Lucie, qui jusqu'alors avait fixé sur son amant des yeux férocement attentifs, haussa les épaules, comme excédée par l'insanité de ses réclamations. Elle se détourna, se mit à contempler la vitrine de l'épicerie, à compter les yeux d'un gruyère qui embrassait, dans une entaille triangulaire, un bocal de cornichons et des boîtes de fil. Puis son regard se reporta sur les images d'Épinal qui tapissaient le fond, accrochées à une ficelle par des pinces de bois. Elle s'intéressa presque à ces colorations enfantines, jusqu'au moment où Zéphyr, qui s'était d'abord répandu en lamentations sur son malheur, finit par lui défendre de ramener cet homme dans sa chambre.
« De quoi? De quoi? Ta chambre? Mais v'là de beaux jours que c'est moi qui la paie, cette cambuse! Tu pourrais bien dire notre chambre, au moins. Et puis, nous verrons un peu si tu oses lui secouer la paillasse. T'es trop feignant pour ça !»
Sans cesse, la voix de l'amant s'élevait avec des intonations furieuses, éveillant la rue de son silence mort. Le rideau d'une fenêtre en face s'était soulevé, et une tête avait apparu, le front collé à la vitre. Lucie l'aperçut, et, gênée de cet espionnage, elle répondit tout bas.
« Bon, tu seras encore bien content de venir déjeuner avec moi demain. »« Ah, ça! Pour qui me prends-tu, sale putain ?» hurla Zéphyr. « Non, tu sais, j'en suis pas encore là. »
Il avait empoigné le bras de la fille et le serrait avec des secousses brutales, si bien que Lucie, d'abord contente d'avoir excité cette colère, se fâcha tout à fait.
« Ah, monsieur n'en est pas encore là. Elle est bonne, celle-là. Mais mon pauvre ami, voilà 3 mois que tu en es là, 3 mois que je t'entretiens comme un joli petit mac que tu es. »
Elle s'emporta, furieuse, déballant les raisons qui lui faisaient juger son amant un souteneur.
Et il n'avouait pas, il protestait. Ce manque de bonne foi l'indignait.
Elle lui reprochait rageusement la modicité de sa paye, son égoïsme, sa tenue propre, la manière infâme dont il avait profité d'une minute d'égarement pour s'attacher à elle, comme une sangsue, et l'exploiter. Ensuite, quand elle fut à bout d'injures, elle s'attendrit sur elle-même, afin de trouver un thème à récrimination.
« Toujours faut que ces cochons d'hommes me fassent périr de misère !» « Qu'est-ce que j'ai donc fait pour être malheureuse comme ça ?»
Elle pleurait. Un flot d'idées tristes l'envahissait. Elle rappelait son luxe perdu, sa vie de noces enterrée.
« Tant pis pour toi, fallait pas venir. »
Le ton très dur de Zéphyr fit comprendre à Lucie qu'elle avait été trop loin. Elle craignit que l'épicier ne s'en fût pour toujours, et dans une vague terreur de l'inconnu, empoignée aussi par un amour-propre à la pensée d'être lâchée, elle se fit aimante et douce, transigea. Elle n'avait pu faire autrement que le suivre. Elle savait bien, il l'avait conquise tout entière. Et cependant, aujourd'hui, il méritait bien qu'elle le quittât. Mais ce lui était impossible. Elle continua longtemps, larmoyante, d'une voix triste, avec des regards tendres. Elle avait poussé Zéphyr dans l'intérieur de l'épicerie, et lui semblait s'intéresser peu à peu à son discours, refouler sa colère. Il hochait des doutes qu'elle sentait être tout d'apparence. Alors elle reprit son idée première, peignit les créanciers en courroux, démontra la nécessité d'un prompt paiement.
« Et puis, tu sais, oh ça je te le jure, après ce coup-là, ce sera tout. Je ne recommencerai plus jamais ce métier-là. Pour sûr, ce sera la dernière fois. « Oh, ça, je te le jure !»«
Non, 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 il arrivera ce qu'il arrivera, mais je ne veux pas !»«
Non, mon chéri, je t'assure que personne n'en saura rien !»
Et laissant cette affirmation, elle étala un amour exagéré pour son amant, une sollicitude de sa santé et de son bien-être. Sans argent, il n'aurait plus ni tabac, ni linge, ni monnaie de cabaret, et cela lui faisait de la peine. Elle amassait les raisons, pressée d'en finir, craignant que l'ivrogne, en haut, ne s'impatientât. Et elle finissait par croire à ses paroles, se trouvant très bonne, très dévouée, jugeant Zéphyr bien méchant de résister si longtemps à de pareilles supplications.
« Tiens, c'est demain dimanche. Si tu veux, nous irons à Roubaix par le tramway à vapeur. Ce sera gentil, hein ?»
Elle espérait cette promesse concluante, et la brutale réponse de Zéphyr la désespéra.
« Hé, je m'en fous pas mal. »
Oh, ne dis pas cela, mon petit homme.
Et en revenant, donc, en revenant, dit Zéphyr, qu'est-ce qu'on fera? Réponds-moi. Voyons, au lieu de faire une vilaine figure comme ça.
Lucie, se levant sur la pointe des pieds, voulut atteindre de ses lèvres la bouche de son amant.
Fous-moi la paix, nom de Dieu! C'est dégoûtant à la fin.
Oh, ne sois pas méchant comme ça, faut pas m'en vouloir. Tu sais bien que je t'aime bien.
Je ne dis pas, mais c'est rudement infect tout de même. Et dire que si j'avais de l'argent, ces saletés n'arriveraient pas. Oh, du reste, je ne veux pas. Si tu y tiens, tu n'as qu'à débarrasser le plancher.
Lucie, sûre maintenant de vaincre, enfila ses excuses en suivant ce nouvel ordre d'idées.
Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Faut prendre la vie comme elle vient. Et puis, nous avons toujours notre amour. Ça console de tout.
Oh, si encore c'était sûr, ça!
La fille l'enlaça, échauffa dans une longue étreinte le corps de son amant, sans parler, mais soupirante. Et comme Zéphyr observait involontairement,
« Tiens, voilà le type qui s'en va !»
Elle le serra plus fort, puis se dégagea rapidement, contente, victorieuse.
Chapitre 6. Le lendemain, Lucie dut aller chercher à l'épicerie Zéphyr, qui faisait mine de ne plus vouloir rentrer. La scène recommença. Les mêmes récriminations s'échangèrent, et comme la veille, tous deux finirent par accuser la misère. Mais fermement, ils décidèrent de lutter désormais contre la mauvaise chance. Mieux valait manger par jour une seule fois que recourir encore à un pareil métier. Et bientôt, la misère revint. Pour la chasser, Lucie, sans en rien dire d'abord, usa des mêmes moyens. Et Zéphyr s'en étant aperçu, elle répondit à ses reproches par un invincible argument.
« Il faut vivre, se vêtir et manger !»
Cependant, le gain facile lui remit en l'esprit ses rêves ambitieux. De nouveau, elle songea aux richesses, à ses projets de bonheur luxueux, et ce fut un grand mérite à son sens, vouloir ainsi donner le bien-être à Zéphyr, un si brave garçon. Pour le consoler de ses déboires amoureux, elle lui ménageait une surprise, le dimanche, quand la semaine avait été bonne. Une partie de campagne, une excursion en Belgique. Il faisait de folles ripailles, une débauche de charcuterie arrosée de bière blanche. Très vite, l'épicier prit goût à cette existence. Ses réclamations se firent moins vives, ses derniers scrupules fuyaient dans l'amollissement de cette vie commode. Alors, Lucie, sûre de n'être pas entravée, ne garda plus de mesure, et l'argent redevint l'unique objet de ses pensées. Un étranger, presque chaque soir, occupait la chambre de Zéphyr. Lui, derrière la porte, attendait la part du louis payé d'avance pour aller coucher ailleurs. Dans les premiers temps, il avait voulu étourdir ses rages jalouses, oublier le mépris de soi qui le poignait, et il s'était mis à faire la noce. Chaque nuit de découcher, les lupanards le recevaient. Il fut bientôt connu des filles, choyé comme une bonne pratique. Et, dans une inconsciente comparaison, il en vint à trouver ennuyeuse Lucie, lui préféra ses femmes, toujours disposées à le satisfaire et toujours paraissant gaie. Elle, souvent, répondait par une parole dure à ses demandes amoureuses, dans une lassitude de l'homme, dégoûtée, enfin, par la continuelle prostitution de sa chair. C'est que Lucie sentait décroître son attachement pour Zéphyr. D'abord, dans la reprise de ses vieux projets, elle avait placé très haut son amant. Pour lui, surtout, elle rêvait s'enrichir. Mais déjà, elle s'avouait que cet homme ne lui plaisait plus. Comme les autres, il cherchait à l'exploiter. Et puis, franchement, elle s'était fait illusion. Il n'était ni beau, ni spirituel. Tout au plus lui avait-il marqué, un jour, une grande bonté d'âme. Et cette bonté, elle l'avait payée, n'est-ce pas, et d'un juste prix.
Peut-être même l'espérance du paiement avait seule poussé le garçon à cette compassion subite. Elle ne pouvait cependant se risquer à le quitter. L'aventure de ses meubles brisés l'avait rendue très craintive, et elle se sentait plus confiante lorsqu'elle voyait les Michet entrant dans sa chambre ébaucher une grimace d'appréhension dégoûtée à l'adresse de Zéphyr qui rôdait dans le couloir. Elle avait de lui un besoin constant et s'apeurait de ses départs. Mais quelquefois, lorsqu'il demandait de l'argent, élevant sans cesse le tarif de ses exigences, elle s'emportait et l'insultait, dans un grand désir de le voir rompre. Lui ne se formalisait plus. Bonassement, avec une inflexion de regret pleurard, il geignait. « Va, c'est bien malheureux. Mais aussi, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Avant, j'étais honnête. » Ce reproche, souvent répété, faisait naître en Lucie une forte émotion. Elle s'apitoyait aussitôt. Elle se sentit obligée à ne pas abandonner cet homme qu'elle avait perverti, persuadée que son influence seule l'avait changé en souteneur. Et, tout à la fois très fière de cette influence qui avait, croyait-elle, fait une victime, chagrinée de cette puissance mauvaise, elle se reprenait, pour un instant, à aimer Zéphyr d'une affection protectrice. Elle lui donnait son gain largement pour réparer, pensait-elle. L'homme, voyant l'efficacité de ses manœuvres, demandait de plus en plus. Et à mesure qu'il obtenait plus, ses besoins avaient grandi. Il avait renoncé maintenant au bordel malpropre du quartier Saint-Sauveur. Il fréquentait les lupanards luxueux, vêtu d'un complet très propre, pour que sa mise ne jurât pas avec celle des commis voyageurs et des étudiants. Il jetait l'argent aux filles sans compter. Dans son commerce continu avec elles, il devint brutal. Il avait des expressions violentes, des grimaces furieuses, et ce mélange de bonhomie et de violence intimidait Lucie, avait sur elle une grande prise. Elle n'osait plus rien refuser. Depuis longtemps, il avait quitté l'épicerie. Le patron, fatigué de ses inexactitudes et de sa paresse, l'avait chassé. Ce fut alors la femme qui paya tout, la mangeaille, les filles, les habits, le tabac. Bientôt même, Zéphyr lui prit ses recettes, criant et se fâchant quand elle hésitait à lui remettre tout l'argent gagné. Chaque jour, au déjeuner, c'était des réclamations sans fin, des criailleries. Et dans le flot de ses injures, Zéphyr aggravait sans cesse le même reproche. Il accusait Lucie de l'avoir pervertie. Ce reproche affolait la fille, rendue stupide par une débauche continue. C'était comme un remords qui la lancinait, lui faisait hausser les épaules avec un frisson quand elle y songeait. Pour échapper à cette obsession torturante, elle devait inventer quelques distractions, s'acharner au gain. Elle se livrait à tous et partout, sans mépris pour les minimes profits. Elle se donnait le soir dans l'encoignure des grandes portes, sur les bancs des boulevards déserts, contre les arbres du rempart. Et vite, avec une joie avide, elle enfouissait dans sa poche l'argent quémandé, presque volé. Les rêves de richesse étaient abandonnés. Son amour d'elle-même avait décru. Elle ne se frisait plus. Ses cheveux, collés sur le front par une pommade luisante, couvraient la peau jaunie. Ses bottines éculées restaient embouées durant des jours, gardant la glaise des remparts. Et sous ses vêtements tachés, seul le jupon blanc à broderie battait encore, comme une enseigne de sa propreté professionnelle. Elle mettait un chapeau, ne le quittait point. Mais c'était seulement parce qu'il autorisait l'exigence d'un tarif plus élevé. Et jour comme nuit, elle se vendait pour 1 louis, pour 10 francs, pour 40 sous. Sortant des bras d'un monsieur, parfois elle courait après un soldat, ajoutait sa pièce blanche au louis, se disant tout bas « Tiens, comme ça Zéphyr sera content !» Elle courait vite jusqu'à la rue Malpart, dans l'impatience de procurer une joie à son amant, et ne le trouvant point, mettait sur la table l'argent gagné, dans un bonheur de tout donner, où se mêlait souvent l'espérance de ne plus voir Zéphyr avant le lendemain et d'échapper à ses mauvaises paroles. Puis, lorsque 5 heures sonnaient,
Elle venait se poster à la porte des casernes pour se livrer encore. Maintenant, Lucie Tirage vivait dans une torpeur abrutie. Elle marchait, somnolente, par les rues, les objets lui apparaissant à travers une buée tremblotante. Au commencement de sa liaison avec Zéphyr, elle avait repris la vie de noces, autant pour satisfaire ses appétits érotiques que pour échapper à la misère. Mais peu à peu, l'abus des plaisirs avait émoussé son éréthisme. L'apaisement de ses ardeurs lui était venu, et les pratiques lascives lui avaient semblé à la longue des corvées à exécuter nécessairement. Impuissante, dès lors, à éprouver une jouissance amoureuse, grondée sans cesse par Zéphyr, qu'enhardissait sa veulerie, elle s'habitua à dormir continuellement pour esquiver ses chagrins. Dans ses moments de loisir, enfin sans dégoût et sans crainte, elle s'anéantissait en un sommeil lourd, jusque l'instant où un ordre de son souteneur l'éveillait brutalement, la poussait dehors, titubante, les yeux clignotants à la lumière. Cependant, elle n'aimait pas Zéphyr. Elle lui restait attachée par un remords vague, une molle habitude qui lui défendait toute résistance et l'empêchait d'échapper à sa suggestion. Alors, la maladie l'attaqua. Elle ressentait d'étranges douleurs. Sa tête s'alourdissait, envahie de continuelles migraines, et lorsqu'elle faisait sa raie, elle remarquait à l'occiput une tache qui chaque jour devenait plus foncée. Sa marche s'embarrassait. Souvent, dans ses vadrouilles, elle devait s'asseoir. Elle avait la sensation d'un poids dans les aines, et lentement, son ventre s'enflait. Mais, pressée de suffire au gain exigé, elle restait debout. Allait toujours sans se préoccuper du mal en croissance. La nuit, toutes ses douleurs s'éveillaient plus vives, rendues atroces par une continuelle insomnie. L'hydropisie du ventre devint telle que Lucie dut interrompre son métier. Elle se coucha, croyant à une grande fatigue que le repos devait dissiper. Dès lors, Zéphyr ne fit plus dans la chambre que de courtes apparitions, la consolant d'un geste avant de repartir. Il ne formulait plus de reproches et lui conseillait même quelques remèdes. Comme elle n'avait plus d'argent pour les acheter, il lui proposa de mettre lui-même ses robes au Mont-de-Piété. Elle, dans sa fièvre, fut émue de cette bonne attention. Elle accepta et d'une voix très douce lui demanda « Dis, si ça te dérange, je peux bien y aller encore moi-même chez ma tante. Je ne suis pas si malade. »
« Tu plaisantes, je ne veux pas que tu te lèves. Ne bouge pas, je reviens tout de suite avec ce qu'il faut. »
Les souliers neufs de Zéphyr, des souliers vernis, craquèrent sur les marches de l'escalier. À l'église de Saint-Sauveur, 8 heures sonnaient. Lucie entendait la pluie tomber, lugubre, et de sa fenêtre, elle voyait le mur énorme de l'hôpital gantois, que l'eau striait de noir. Jusque 3 heures, elle attendit le retour de son amant. Une voisine l'étant venue voir, elle la pria d'aller chercher Zéphyr. La femme raconta l'avoir trouvé au cabaret, chantant. Il avait répondu « Ah, elle m'assomme, cette vieille peau-là !» Puis il s'était remis à chanter. Et la voisine déblatérait contre cette canaille, un homme qui devait tout à Lucie. « Allez, » dit la fille, « il ne faut pas lui en vouloir, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. » Et toujours, dans ses longues explications, elle répétait « Que voulez-vous? C'est moi qui l'ai rendu comme ça. Il m'aime bien tout de même. » À 9 heures, le soir, Zéphyr rentra dans la chambre, très ivre. Il eut une crise de larmes à la vue de Lucie, s'agenouilla près d'elle et pencha un flot d'excuses repentantes. Et la fille, dans une joie de le voir si humble, lui pardonna, prête à s'accuser elle-même. Un repos continu, l'arrêt momentané des fatigues charnelles, la remirent sur pied. L'enflure de l'abdomen disparut complètement. Mais au sommet de l'occiput, Lucie devait ramener ses cheveux en haut chignon, suivant la mode, pour dissimuler la tache brune qui chaque jour grandissait. Lorsqu'elle put sortir, elle recommença à se vendre à tous, entretenir son amant. Chapitre 7. Comme 3 heures sonnaient à l'horloge de l'hôpital Sainte-Eugénie, une douleur éveilla Lucie Tirache. Quelques instants, elle resta immobile, toute gémissante, cherchant à rappeler le sommeil qui s'enfuyait. Mais bientôt, elle sentit au bras gauche une sorte de broiement. Ses os semblaient éclater dans une étreinte qui ne cessait pas. Elle dut étendre le bras sur les couvertures, et ce mouvement la tira de sa torpeur. Il était bien pénible ne pouvoir reposer après une telle fatigue. Elle était si lasse. Toute la journée, elle avait souffert à la suite de l'opération du matin, l'extraction d'un os à la jambe. Quelle terrible maladie! Elle sentait partout des lancinements et des brûlures. Les os s'effritaient, se cassaient, perçaient ses chairs. La peau semblait trop étroite pour ses membres gonflés, la pressait en une gêne continuelle, et sa nuque, endolorie par une même position gardée trop longtemps, avait une raideur intolérable. Elle allait essayer de changer sa tête de place, très doucement, car la plaie du crâne suppurait fort, et elle était mouillée jusque dans le cou. Une plainte rauque frappa ses oreilles. C'était l'hystérique, une assommante femme qui criait toujours. De sa main valide, Lucie écarta le rideau, aperçut le mur jaune, la veilleuse auréolée de faibles rayons, les tentures enfermant les lits, et sur des matelas posés à terre, une forme blanche qui se débattait, se roulait, s'étirait. Parfois, la face apparaissait, livide, ou la bouche ouverte faisait un trou noir. La fille haussa les épaules, impatientée par la vue de ses contorsions. N'allait-elle pas bientôt finir, celle-là? Il fallait encore entendre les plaintes de cette toquée, comme si elle n'avait pas assez de sa maladie pour l'empêcher de dormir. Voilà, maintenant qu'elle s'était fait mal en se recouchant, et ses chairs semblaient se déchirer à nouveau. Oh, sa tête était lourde. Un bandeau enserrait étroitement son front. On aurait dit que des billes de plomb roulaient dans son crâne et en venaient cogner les parois. Les pommettes et ses joues ardaient. Le sommeil ne venait pas. Malgré elle, ses yeux s'ouvraient à chaque seconde. Le moindre craquement excitait son attention. En cet éveil forcé, elle contemplait la salle par désœuvrement. Ses regards allaient de lit en lit, suivaient les plis des rideaux, aux cassures effacées en la pénombre grise. Dans les hautes fenêtres, des carrés de ciel bleu se découpaient, tout éclaboussés du scintillement stellaire. Et par intermittence, il y avait un bruit de draps froissés, de ressorts craquants et tintants. Et la douleur reparaissait plus vive. Certainement, le docteur se trompait en affirmant qu'elle était reprise de son ancienne maladie. Autrefois, elle n'avait jamais été ainsi torturée. D'ailleurs, les accidents avaient tout à fait disparu, depuis 2 ans, depuis son départ de Douai. Pourvu qu'en sortant d'ici, on ne la mit pas dans un atelier religieux, elle n'en voulait plus. Que deviendrait Zéphyr sans elle? Elle serait encore obligée à se confesser, à travailler tout le jour, pour ne presque rien gagner. Lucie s'assoupissait, tout en geignant. Soudain, du rideau pendu au lit, lui faisant face, une cornette blanche parut s'avancer, surmontant un long tablier dont la bavette était ornée d'une croix. C'était la sœur Sainte Thérèse. Elle la reconnaissait bien. Elle venait la chercher pour la rendre à Douai. Oh non, il ne fallait pas l'emmener. Elle devait maintenant se dévouer tout entière à Zéphyr qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait plus le quitter sans crime. Elle se défendait contre la religieuse, répétant tout bas « Non, non !» très bas, dans la crainte que l'infirmière ne survînt. L'infirmière était devant Lucie, menaçant du geste l'hystérique qui, tombée de ses matelas, les jambes en l'air, se tordait les mains et hurlait. Elle s'efforçait à la recoucher. Un moment, la fille examina la face convulsée de la furieuse. La tache de clarté éblouissante qu'un bougeoir, posé à terre, mettait sur le groupe. Au-delà, tout était gris mauve, et dans le pli des rideaux, de longues traînées bleuâtres s'allongeaient. Aux fenêtres, le ciel pâlissait. Lucie avait soif. Elle appela l'infirmière, lui demanda à boire.
C'est bon, je vais vous donner de la tisane. » La femme s'éloigna en portant son bougeoir. Un rond lumineux la précédait, blanchissant devant elle les tentures des lits. De grandes ombres noires les léchaient, qui montaient se perdre dans le plafond, et quand l'infirmière était passée, tout retombait dans l'uniforme pénombre. Heureusement, pensait la fille, qu'elle s'était réveillée, qu'elle avait pu échapper à ce vilain cauchemar. Elle était sans doute bien plus mal, puisqu'elle ne pouvait dormir sans rêver d'affreuses choses. Elle ne finirait donc pas cette maladie. Voilà un mois qu'elle était couchée dans ce lit d'hôpital. Un mois, c'était si long. Zéphyr, que devenait-il? Pauvre Zéphyr! Et cette douleur qui ne cessait pas, il lui semblait toujours qu'on la broyait, que sa peau allait éclater sous la pression intérieure d'une bouillie fermentante de chairs et d'os brisés. Et partout un pu suintait. Elle sentait sur ses jambes dégouliner, en minces filets, une liqueur tiède, et elle se vautrait dans des draps humides. Qu'avait-elle dans le corps qui s'écoulait ainsi, sans arrêt? « Eh bien, vous avez une rude fièvre, vous. Buvez ça. Ce n'est pas bon, hein? Ça vous apprendra à faire la noce. »« Merci, madame, » répondit Lucie Tirache en rendant la tasse. Quand l'infirmière fut partie, elle maugréa. « Faire la noce! Faire la noce! Avec ça que c'est commode d'agir autrement quand on n'a pas le sou. Et puis, est-ce que toutes les femmes ne faisaient pas la noce? Elle était plus franche que les autres, voilà tout. » Oh, maintenant les crampes d'estomac la reprenaient. Tout remuait en son ventre, ses boyaux se tordaient, des éructations lui montaient à la gorge, successives, lui faisaient ouvrir la bouche sans cesse, secouer sa poitrine. Oh, si ça continuait ainsi, elle finirait par mourir. C'était cette idiote d'infirmière qui l'avait mise en cet état. Faire la noce! C'était encore plus propre que de laver les saletés des malades, d'aller torcher tous les numéros les uns après les autres. Elle l'embêtait à la fin, celle-là, avec ses airs de Sainte-Nitouche. Une femme qui avait eu 4 enfants. Elle ne les avait pas fait par l'oreille, bien sûr. Enfin, le mal se calmait un peu. Elle allait essayer de se rendormir, si cette brute d'hystérique ne gueulait plus. Faire la noce! Faire la noce! On lui reprochait tout à elle, parce qu'elle avait été en maison. Elle n'était pas la seule, peut-être. Elle s'endormit. Ah! On allait commencer. Le théâtre était bien éclairé. Vraiment, et puis, il y avait beaucoup de monde. Merci, madame Donnard. Vous avez été bien aimable de nous amener. Vous ne savez pas ce qu'on joue? Ah! Vous ne savez pas. Je vais chanter. Parce que j'ai été chanteuse avec Dosia. Vous l'avez connue, Dosia, n'est-ce pas, madame Donnard? Oui, me voilà en scène. Je vais chanter. Oui, mais qu'est-ce qu'on joue? Je ne peux pas chanter si je ne sais pas ce qu'on joue. Voyons, vous êtes ridicule. Léon à l'orchestre. Il joue du violon. Ah, voilà, le père Donnard qui me fait des signes là-haut, aux secondes, dans la loge du 7. Et Laurence qui me fait des grimaces. Attends un peu, sacré garce. Tu vas voir comme je vais te coller un coup de peigne dans le derrière. Bon, elle ne pouvait pas retirer son peigne maintenant. Tiens, Léon à l'orchestre, il joue du violon. Et puis Charles, et puis Georges. Oh, quelle drôle de tête ils ont. Peut-on avoir des binettes pareilles? Il y a aussi Zéphyr, et puis Henri, Lucien, Ernest. Ils sont tous là. Quelle bonne balle! Ils jouent du violon tous ensemble. Vont-ils vite? Vont-ils vite? Arrêtez donc que je chante. Bon, les v'là sur la scène maintenant. Laurence! Laurence! Sale putain! Lâche ce tison rouge! Tu vas me brûler! Ne me brûle pas! Oh, il fait tout noir. Elle me poursuit. Et Georges qui me vise avec son fusil. Ah, je suis sauvée. Je ne vois plus rien. Oh, cet escalier, comme il descend, toujours, on n'en voit pas la fin. Des rampes après des rampes, tout cela tourne dans un trou sans fond. Ah, je ne les entends plus. Voilà les dernières marches. Il n'y a plus d'escalier, mais un trou très noir. Zéphyr, pourquoi veux-tu me tuer? Ne me tue pas. Laisse là ta hache, je te donnerai l'argent. Ah, tant pis, je me jette. »
Oh, qu'elle s'était fait mal. Elle avait voulu se retenir avec son bras malade. Non, elle ne dormirait plus, pour faire de sales rêves comme ça. D'ailleurs, il faisait presque jour. Une clarté bleue, uniforme sur tous les objets, jusque sur l'hystérique, enfin empoignée par le sommeil et ronflant presque nue, les membres épars. Au bas des fenêtres, une large bande rouge. Au-dessus, un ciel jaunâtre, puis blanc, d'un blanc azuré où brille une petite étoile. Quel abominable sommeil! Est-ce que maintenant elle dormirait toujours comme ça? C'était plus fatigant que la veille. Quelle peur! Elle avait de la sueur partout, et son mal de tête était encore bien plus intense. Voyons, il fallait essayer de se remettre. Il allait faire bien beau aujourd'hui, un temps d'été. Oh, l'été d'autrefois! Saint-Quentin, les bords de l'eau, une barque pourrie, remise en un champ où elle s'asseyait avec Léon lors de ses premiers rendez-vous. Il l'embrassait partout, et elle se défendait, se fâchait, et lui répondait toujours « C'est ta faute aussi, pourquoi es-tu si belle ?» Mais aujourd'hui, elle n'était plus belle. Elle considéra ses mains. Les veines, les artères dilatées, gonflées, formaient un réseau bleu sous l'épiderme rougi. Aux ongles, des bleuissures se montraient, avec par endroits des points violâtres, presque noirs. Elle se désola. La main, hier, n'était pas violette ainsi. Décidément, le mal ne décroissait pas. C'était interminable. Ah, peut-être l'autre bras allait-il mieux. Elle allait le démailloter. À grand-peine, dans une appréhension de se faire souffrir, elle défit les bandes enroulées. L'une à l'autre, elles étaient unies par un pu sanglant, desséché. Lucie ressentait un picotement douloureux en les décollant. Sous ses doigts, les linges craquaient, demeuraient en une spirale roidie. Et à mesure qu'elle démaillotait, les cercles jaunâtres qui tachaient la toile s'amplifiaient et brunissaient. Enfin, le membre apparut à découvert. La peau était tendue, lisse, fine, sans une ride. Le poignet avait perdu ses formes et présentait seulement une bouffissure rougeâtre, pâteuse, indécise de contour, sous laquelle un liquide pâle fluctuait. D'étroites fentes, une liqueur livide sourdait, rubéfiée de fils sanglants. Ça n'allait pas, pas du tout. Elle n'aurait pas dû regarder. Cette vue lui faisait mal. Et puis maintenant, ça coulait plus fort. Une douleur insupportable l'avait prise au bras, partout. Elle était comme serrée dans un étau, et malgré cela, un vide l'envahissait, son corps s'allégeait dans un affaissement. Lucie laissa retomber sa tête pesante. Il y eut le bruit d'une vessie qui s'écrase. Un liquide chaud coula de son crâne, lui inonda le cou et les épaules. Oh, tant pis, elle ne remuerait plus, ça lui faisait trop de mal. D'abord, elle ne sentait plus sa tête, ni ses mains, ni son corps, plus rien. Elle éprouvait seulement une immense douleur, sans savoir où. Elle voulut fermer les paupières et ne put y parvenir. Elle restait étendue sur le dos à regarder fixement le ciel de lit tout blanc. En haut, le soleil rayonnait dans les vitres brillantes, les murs s'illuminaient, la poussière répandue partout scintillait, au plafond les lézardes se doraient. Quel malheur, ne pouvoir sortir par un si beau temps! Comme il serait bon se promener à la campagne avec un amant chéri! Bien longtemps encore elle resterait couchée sans se donner ce plaisir. Bah, elle était folle, elle se guérirait, comme la première fois. Dans une huitaine, elle serait sur pied, et elle irait à Paris rejoindre Léon, le seul homme désirable. En le revoyant, elle l'aimerait tout de suite. Quel délicieux baiser! Et puis, elle lui ferait raconter ses amours, simulerait une bouderie pour qu'il la caressât fort, afin de l'apaiser. Alors, la réconciliation viendrait, et ils s'aimeraient.
Oh, comme tout s'obscurcissait autour d'elle, elle ne voyait plus les rideaux, à peine encore le volant du ciel du lit. Tout lui semblait jauni dans une buée d'or, et l'or occupait toute sa vue. C'est qu'elle allait dormir. Oh, les charmants rêves qui viendraient l'enchanter! Elle reverrait Léon, l'aimerait d'une passion immense, ineffable. Ils se perdraient, tous les deux, dans une jouissance infinie. Et puis, ils ne verraient plus rien, rien que de l'or, tout autour, comme plus que des nuages blancs et dorés. Une brume délicieuse, douce. Ils ne sentiraient plus que leur chair veloutée, si fine, si suave, si voluptueuse, infiniment. « Eh bien, le 8, ça ne va pas, hein, ce matin ?» Et ils seraient d'or, tous les deux, d'or blanc, très léger, très pur. Ils rouleraient dans les rues. Une caressante. Le docteur ? Oui, elle allait très bien. Elle allait voir l'amour, l'infini amour, éternel, toujours.